Insolente.
Très sensible.
Bonne vivante.
Idéaliste.
Pleine d'humour.
Sensuelle.
Militante.
Généreuse.
Extrêmement courageuse.
Engagée et libre.
Letizia Battaglia, 1935-2022. Une photographe hors les murs. Un documentaire de Noémie Salonia et Agnès Cotou.
Son aspect, c'est comme son esprit. C'est-à-dire qu'elle était très singulière. Donc elle a toujours eu sa petite coupe au carré, une femme très dynamique, un corps vigoureux. Elle était fantaisiste, elle avait toujours son appareil photo. On peut dire son cœur, c'était son appareil photo.
Elle disait toujours qu'elle prenait des photos à la distance d'une gifle ou d'une caresse.
Letizia Battaglia arrive à la photo par la traversée de la mort.
Frédérica Abbate, écrivaine.
Et en fait, cette traversée de la mort s'est produite à cause d'un traumatisme qu'elle a eu quand elle avait 10 ans. C'est que quelqu'un exhibitionniste, non seulement a fait un acte d'exhibition devant elle, mais s'est masturbé devant elle. Et donc c'est par rapport à ça où son enfance a été brisée, parce qu'elle a raconté ça à ses parents, elle a été traumatisée, et là elle a subi un deuxième traumatisme. Et elle-même disait, je ne sais pas lequel a été le plus dur pour moi, c'est que son père, pour la protéger, l'a enfermée à la maison. Donc toute sa liberté d'enfant, elle avait 10 ans, elle aimait courir, aller, venir observer le monde, a été brisée. Donc son rapport aux petites filles, c'est d'essayer de retrouver cette petite fille qu'elle n'a pas pu continuer d'être, en fait. Et pour elle, ça signifiait l'innocence, parce qu'elle, elle disait, moi, je ne savais pas quand cet homme a fait ça devant moi, moi je pensais aux princes, aux princesses, aux fées, aux licornes. Donc c'est son enfance brisée qu'elle essaie de retrouver avec les photographies des petites filles, qu'elle a formidablement bien photographiées d'ailleurs. Et pour elle, c'est l'innocence et c'est l'espoir aussi, c'est l'avenir. C'est avec ces petites filles qu'on peut espérer avoir un monde meilleur.
Cette fameuse photo qui est extrêmement connue, où on voit une petite fille le bras contre un mur abîmé à Palerme.
Letizia Guillemin, iconographe.
Dans l'autre bras, un ballon de foot qui est très très grand, presque. Alors ça, c'est l'effet du grand angle hein, qui lui donne cet aspect très grand. Le regard charbonneux, noir, direct, franc. Elle regarde Laetitia comme s'il y avait une grande complicité entre les deux et comme si elle se connaissait presque. Puisque dans cette image est concentrée quelque part l'enfance et l'histoire de Letizia Battaglia, on pourrait dire ça.
Letizia, bien sûr, elle était pleine d'énergie.
Sabrina Piso, journaliste et co-autrice de la biographie de Letizia Battaglia.
Elle voulait découvrir le monde, son monde, et s'est retrouvée à la maison sans liberté, sans la possibilité d'exprimer l'énergie qu'elle avait. C'était plein d'énergie toujours volcanique. Donc pour elle, c'était vraiment une douleur incroyable. Et donc elle a décidé de se marier quand elle avait 16 ans. Mais le mariage s'avérait être une autre prison pour elle, parce que même son mari, il ne voulait pas qu'elle étudie, qu'elle cherche un travail. Donc, elle a eu bientôt 3 filles qu'elle a aimées profondément, mais elle voulait pas seulement être une maman, elle voulait être une femme indépendante. Et donc, elle a pris le courage de divorcer, même s'il n'avait pas un boulot, et de recommencer.
J'avais pris la décision après 18 ans de mariage.
Letizia Battaglia.
Et j'avais eu besoin d'analyse freudienne pour trouver le courage d'abandonner toute la situation et d'aller à l'aventure avec mes filles à Milano, avec l'intention de travailler et de construire une autre Letizia.
Milan, c'est très important dans la formation de Letizia Battaglia, parce que quand elle arrive à Milan, c'est 1971, et il y a 2 ans qu'il y a eu la bombe au siège de la Banca Nazionale dell'Agricoltura. C'était une période de tensions sociales, politiques. Milan, c'était vraiment un endroit de beaucoup de manifestations, des grèves, des étudiants, de travailleurs qui essayaient de demander des droits pour des meilleures conditions de travail. Donc Letizia Battaglia, je pense, apprend la leçon de la photographie un peu militante à Milan. Parce qu'à Milan, il y a tout un groupe de photographes freelance qui commencent à utiliser l'objectif 28 mm, par exemple. Donc ils sont vraiment dedans l'histoire. Ils ne prennent pas seulement des photos, mais ils participent à toutes les choses qui se passent à Milan, les manifestations, les grèves. Donc, je pense que pour Letizia, 3 années qu'elle passe à Milan, elles sont fondamentales pour respirer l'atmosphère. Elle comprend qu'il y a la possibilité vraiment de se battre pour demander de droits, pour exiger une société plus juste. Et donc, elle fréquente tous les lieux à Milan qui sont un peu le symbole de la contestation. Les Circolo Turati, où elle prend la photo de Pier Paolo Pasolini. Donc, c'était un voyage, je pense, important à Milan.
Goffredo Fofi, auteur et critique de cinéma.
Letizia era un caractère fort.
Letizia avait un caractère bien trempé. C'était une palermitaine originale qui avait aussi une forte expérience du nord de l'Italie et elle en avait gardé une certaine attitude pratique. Il y avait certainement un brin d'idéologie qui l'animait, mais elle était aussi extrêmement concrète. C'était une femme qui voulait réaliser des choses tangibles et elle y est parvenue. Parce que si on pense à Palerme ou à la province de Palerme, la mafia faisait tant de morts. C'était une situation extrêmement critique, mais il y avait aussi une atmosphère très combative, de lutte, parce qu'on s'interrogeait sur la réalité et on cherchait à changer cette réalité. La photographie était un outil pour cette lutte, elle en faisait partie. Et Letizia jouait un rôle clé dans cette histoire.
Moi, j'ai commencé à faire la photographe dans le 1975.
Archives France Culture, Grand Angle, 5 juin 1993.
J'ai commencé à travailler pour un quotidien et ce furent les années plus terribles de ma vie. Parce que j'ai commencé à photographier, je croyais la vie, et ça a commencé les morts. Les femmes qui criaient, les enfants tués parce qu'ils l'avaient vu, et les hommes emprisonnés, les garçons morts de drogue, ou les garçons très jeunes en prison parce qu'ils faisaient le commerce de drogue, ou les juges assassinés, journalistes assassinés, docteurs assassinés, policiers, carabinieri. Les personnes meilleures que nous avions, je les photographiais mortes.
À Palerme,
Franco Zecchini,
des années,
photographe.
Moi, je suis arrivé en 1975. Je ne connaissais pas tellement la ville. Et je suis tombé amoureux tout de suite de l'ambiance. J'aimais beaucoup, beaucoup me retrouver dans cette ville comme ça, un peu sinistrée, un peu chaotique, très chaleureuse, très bruyante aussi. On travaillait pour ce journal quotidien qui s'appelle le journal L'Ora, et qui était un journal de soir. Donc, c'était un journal d'opposition, un journal lié au Parti communiste. Et c'était une époque où il n'y avait pas encore Internet. C'était le début de la petite chaîne de télévision privée. Donc, l'information, c'était encore sur les papiers. Donc, ce travail était un travail où on n'avait pas vraiment des moments où on pouvait rester tranquille, relaxé, etc. Parce qu'à tout moment, on pouvait arriver un coup de fil et on devait partir sans savoir exactement qu'est-ce qu'on allait trouver. On avait des indications comme ça, assez vagues. Souvent, c'était des meurtres, donc des situations assez violentes. Mais c'était pas seulement ça, c'est-à-dire le travail pour un quotidien, le travail de photojournaliste était un travail où on touchait tous les niveaux, toutes les couches sociales, on passait de la de l'Assemblée régionale, qui était un parlement, au conseil municipal, au match de football. C'était toute une variété de choses, toute la journée, comme ça. Et dans ces routines, on avait aussi ces imprévus des homicides qui étaient assez impressionnants. Pour dire, en 82, on a eu plus de 100 homicides dans l'année dans la ville. Donc, c'était un massacre. Des fois, il y avait un le matin, un le soir, ou des fois, il y en avait deux. Des fois, on tuait 4 personnes au même moment. Donc, et en plus, on ne savait pas exactement les raisons, qui était derrière tout ça. Il n'y avait pas vraiment de moyen de faire des enquêtes. La police et la magistrature étaient toujours un peu suivant le fait. Ils n'avaient pas une possibilité d'anticiper tout ça.
Oui, j'étais un petit journaliste dans un quotidien qui s'appelait L'Aura.
Archive France Inter, Regardez voir, 4 décembre 2016.
Qui sortait à Palermo, qui était anti-fasciste, anti-raciste et anti-mafioso. Ça, c'était très important pour moi de travailler dans ce milieu. Parce que toute ma vie, quand même quand j'étais enfant, j'avais toujours envie de justice et je ne supportais pas la violence. Et la violence de la mafia s'est arrivée quand j'avais presque 30 ans. Et dans ce journal, j'ai commencé à photographier toute la vie. Pas seulement la mafia, tout, je faisais quand même le football. Mais les années quand j'ai commencé à photographier en Palermo, c'est commencé la guerre, vraiment la guerre furieuse de la mafia contre les gens qui n'étaient pas mafiosi.
Mi ricordo il venditore dell'Ora di Palermo.
Je me souviens du vendeur de l'Ora de Palerme, le quotidien de gauche qui paraissait après 5 heures de l'après-midi. C'était un journal du soir et le vendeur tournait à pied dans tout le quartier pour le vendre. Et toujours j'entendais les différents vendeurs qui criaient
«
Achetez l'Ora, des morts et des blessés !» Chaque jour, entre 5 heures et 6 heures de l'après-midi, j'entendais ce hurlement dans le quartier pauvre où j'habitais. Ce hurlement emplissait la rue. Et je pense que cette voix ne mentait jamais, parce qu'à l'époque, on était en pleine guerre des mafias, celle qui a été gagnée par le clan des Corleone.
Cette photo où on voit un cadavre sur une rampe de garage, au fond de l'image, on découvre une foule qui permet de contextualiser en fait l'image. Et ce qui est vraiment délirant dans cette image, c'est qu'on a l'impression d'une sorte de point de suspension, comme si la vie s'était arrêtée sur cette scène. Et le point de vue en plongée montre ce cadavre, comme si on était venu le placer sous notre nez, comme un vulgaire sac poubelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en verticale aussi. Hein. La verticalité, ça enferme la scène. Et donc, ça insiste sur le fait qu'on est en immersion. Et qu'on vit toute l'horreur de cette situation, des conséquences de la Cosa Nostra, la mafia, dans cette ville. Et c'est ce côté tellement banal qui est monstrueux, en fait, dans cette image. Je la trouve super forte, cette photo. Elle nous aspire, et ça, elle est incroyable, cette image.
Le journal L'Ora, c'était le premier et unique journal qui dénonçait la mafia, qui nommait la mafia. Dans une période dans laquelle, dans les rues de Palerme, les gens ils tournaient le visage de l'autre côté, où ils disaient « non, il n'y a pas la mafia n'existe pas ». Donc L'Ora a fait un travail extraordinaire, tout en formant une équipe de journalistes d'investigation. Et il a payé un prix élevé parce que 3 journalistes ont été tués. Et Letizia Battaglia avec Franco Zecchin à l'époque, elle documente avec sa caméra cette guerre terrible à Palerme. Elle disait que c'était une ville avec une guerre permanente. Dans les livres, elle disait quand un photographe des guerres voyage dans des endroits où il y a des guerres, après il retourne chez soi et il vit sa vie normalement. Mais elle vivait dans une ville qui était toujours en guerre.
C'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose en plus. Et avec les photos, moi et mon groupe, avec Franco Zecchini, nous avons commencé à faire des expositions contre la mafia, même dans les rues, même dans les villages de mafia.
C'est un courage inouï d'avoir fait ça. Et elle dit, j'avais tellement peur. Et il y a une interview juste quand elle a fait ça, elle dit, j'ai un regard de folle, parce que c'est la peur. D'ailleurs, il faut dire que même quand elle allait photographier à Palerme, on faisait tomber son appareil photo, on la poussait, on l'insultait. Et en fait, c'est l'une des grandes militantes qui a essayé qui est arrivée à faire lever le voile du silence. Comme tous les grands courageux, les résistants sont des gens qui vous disent qu'ils n'avaient pas le choix, en fait, de faire ça. C'est imposé à eux. Et la peur, elle la traverse et elle la surmonte.
Archives France 3, 1er juillet 1998.
Je dois être sans peur. Je dois m'approcher. Je vais regarder dans les yeux. Même les mafios, ils doivent me regarder.
Archives France Culture, Carnet Nomade, 28 juillet 2000.
Une photo est restée dans mon cœur d'une personne qui a été tuée parce que c'était une personne honnête. C'était le président de notre région, il s'appelait Pier Santi Mattarella. Il voulait changer la réalité de la Sicile, les travaux publics avec la mafia, il refusait. On l'a tué. Et dans cette photo, qui c'était très important, parce que c'était par hasard que je l'ai fait avec, il y avait quand même avec moi Franco Zecchini, qui était photographe aussi, et qui était mon compagnon de vie.
Laetitia va d'un côté, moi je vais de l'autre, et on commence à photographier. Et il y a des gens qui sont en train d'extraire un corps d'un homme blessé, carrément, de la voiture pour les transporter dans une autre voiture pour l'amener au premier secours à l'hôpital. Et donc on prend quelques photos comme ça, très, très vite, dans l'action, quoi, sans savoir qui était cette personne et qu'est-ce que s'était passé. Et donc tout de suite après, on a appris que c'était le président du Parlement régional, Pier Santi Mattarella, qui venait d'être assassiné par deux killers mafieux. Et c'était l'homicide le plus important, l'homicide politique le plus important jusqu'à ce moment-là en Italie. Donc on a assisté en direct presque à un événement d'une portée historique.
Pourquoi j'aime cette photo? Parce que maintenant, le président de notre nation, Italie, et c'est le frère de Pier Santi Mattarella, Sergio Mattarella. Il est devenu président de la Repubblica Italiana. Et dans ma photo, il y a lui qui tient son frère. Et alors c'est très, je ne sais pas comment dire, reconnaître dans le président de l'Italie maintenant un homme qui a souffert des choses terribles, les mêmes choses que nous avons partagées avec lui, mais pour lui c'était un frère. Et maintenant, ça c'est une espèce d'espoir pour moi, savoir que lui, le frère d'une personne tuée, est notre président d'Italie. Peut-être qu'il combattra, il soutiendra la lutte contre la mafia mieux que maintenant.
Et d'ailleurs, quand on voit la fameuse photo de l'assassinat de Pier Santi Mattarella, on est à l'intérieur de la voiture, on est encore enfermé dans cette image. Et on voit à l'extérieur le contexte, toujours. D'ailleurs, on ne le voit pas, on voit ses pieds, mais on voit toute la douleur autour et toute la tension, l'espèce de sidération qu'on peut ressentir au moment de cet assassinat, par exemple. Enfin, ça me fait penser à une autre photo de la mort de Kennedy, de l'assassinat de Kennedy, rien à voir avec, avec le sujet. Mais en même temps, les photos qu'on a de la mort de Kennedy, elles sont très très à distance. On a un regard de témoin, alors que là, on est vraiment dedans. Donc là, c'est comme si on vivait l'attentat au premier plan. On n'est pas témoin, on vit l'assassinat.
Ça m'évoque le fait qu'elle disait qu'elle se photographiait aussi elle-même quand elle photographiait. Les mêmes scènes de crime étaient photographiées par son compagnon, Franco Zecchin, et elle. C'est vrai que ça donne des photos tout à fait différentes. Elle photographie le monde, mais c'est sa propre vision aussi qu'elle photographie. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas seulement le monde, mais c'est la manière dont on le regarde, la manière dont on le perçoit. Par exemple, elle met carrément son appareil photo à travers la vitre, dans la voiture. C'est quelqu'un qui trempait ses sabots dans le sang. Elle entrait carrément dans la scène. Elle utilisait un grand angle, ce qui normalement est fait pour des grandes scènes, mais elle l'utilisait pour des petites scènes et elle entrait dedans. Et ça, donc, elle photographie le monde, mais elle nous montre aussi une manière d'être au monde. C'est ça qui est important.
Elle voulait faire aussi partie de la photo. En fait, ça, je pense que c'est important dans l'histoire de Laetitia Battaglia. C'est la chose qui change avec elle dans le reportage de Mafia, si on peut l'appeler comme ça. Ça veut dire que elle se sent partie de l'histoire qui se passe à Palerme. Elle n'est pas seulement la photographe qui documente, qui dénonce avec la photographie, mais elle est aussi la citoyenne sicilienne, italienne. Et elle dit « je suis responsable ». Je fais partie de cette histoire. Et donc, je prends la responsabilité civile de la chose qui se passe à Palerme et je suis dedans la photographie. Je suis tellement près de la personne qui vient d'être tuée que je fais partie de cette histoire.
I valori sono, diceva il compagno Kant, il bello, il giusto, il vero.
Comme disait le camarade Kant, les valeurs sont le beau, le bien, le vrai. Et Laetitia était quelqu'un qui avait sa propre morale qui ne venait pas de la lecture du Capital de Karl Marx, du manifeste du Parti communiste ou du courant de De Gasperi ou de Togliatti. Je me souviens aussi qu'une fois nous avions longuement discuté de cette maxime qui, je crois, était de Kant. Fais ce que tu dois, advienne ce qui peut. C'est donc l'idée d'une moralité intime, profonde, basée sur ces valeurs du beau, du bien et du vrai. Et Laetitia a su conjuguer ces valeurs à son activité de photographe, parce qu'au fond, la beauté lui importait. Non pas qu'elle cherchait à photographier des choses impressionnantes ou qu'elle en faisait un objet de fascination esthétique. Non, elle voulait inventer une forme. Elle voulait participer à la création d'une idée du beau qui soit une idée neuve, une idée de cette époque-là, de son temps, une idée qui dérive directement de son parcours politique, culturel, moral, etc.
Non da sola, ovviamente.
Et pour elle, c'était aussi un travail collectif. Par exemple, à Palerme, c'était le maire, Leo Luca Orlando, qu'elle avait pris comme partenaire.
Et à un moment donné, elle a été adjointe au maire, elle a fait beaucoup pour sa ville, et elle a dit que c'est l'une des périodes la plus heureuse de sa vie, parce qu'elle avait vraiment une action bénéfique. Et elle a montré aux gens qu'il fallait s'approprier leur ville, qu'il ne fallait pas arracher les fleurs. Et les enfants l'appelaient la fée, la Fata Laetitia Battaglia. C'est vraiment merveilleux. Ils venaient lui dire, regarde, là, il y a une partie qui est sale, parce que il y a des parties à Palerme qui étaient de véritables dépotoirs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a tout fait nettoyer pour rendre la vie des gens meilleure.
J'ai la passion de la ville propre.
Laetitia Battaglia, archives France Culture, Carnet Nomade, 15 mai 2000.
C'est une passion, peut-être qu'elle peut sembler banale, mais je crois que les jours qui nous seront capables de tenir la ville de Palerme propre, ça sera le jour où nous serons capables d'aimer. Parce que c'est une question, pour moi, c'est le symbole. Si la ville est propre, si nous sommes propres, la mafia peut-être qu'il n'existe plus, parce que peut-être qu'il devient plus important le respect, l'amour, la discipline.
Laetitia a commencé son mandat de conseillère verte de Palerme en 1987. Elle disait « je pouvais finalement faire des actions concrètes des beautés ». Par exemple, faire réparer les trottoirs, donner une maison à ceux qui en avaient besoin, ou par exemple aussi, elle a fait planter de fleurs, de plantes, 5000 arbres. Elle parlait toujours, j'ai fait planter à Palerme beaucoup d'arbres. Donc je pense que pour elle, le fait de planter des fleurs, des arbres, sur une terre qui a été baignée pour des années de sang. C'était vraiment la renaissance symbolique, mais aussi concrète de Palerme.
Laetitia non era una che aveva tre idee fisse e andava avanti su quelle.
Laetitia n'était pas de ceux qui restent bloqués sur trois idées fixes. C'était quelqu'un d'ouvert, de très concret. Et de toute façon, à Palerme, il fallait être concret, sinon on ne savait pas où aller. On ne comprenait pas ce qui s'y passait et on restait coupé des véritables rencontres.
Non aveva capito queste forme un po' idealistiche di un certo socialismo romano.
Or, Laetitia n'avait pas cet idéalisme qui était lié à un certain socialisme romantique. Et ce n'est donc pas par hasard qu'elle était une grande photographe. Elle savait voir la réalité, ses multiples facettes, sa variété, sa diversité. Elle connaissait la bourgeoisie et le prolétariat, mais aussi le sous-prolétariat et les marges absolues où évoluent les mafieux.
Laetitia Battaglia, elle a vraiment aimé beaucoup le juge Giovanni Falcone et Paolo Borsellino parce qu'ils symbolisaient Palerme, l'Italie honnête. Et en fait, il faut rappeler que c'était le juge Falcone qui, grâce aux confessions du repenti Tommaso Buscetta, avait instruit le premier maxi procès de la mafia, ayant conduit en 1987 à la condamnation de centaines de mafieux. Donc Falcone, pour la première fois, avait brisé l'omerta, le mur de silence, et la mafia n'a pas oublié.
Archivina, 24 mai 1992.
France Inter. À l'étranger, l'ennemi numéro un de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, le juge Giovanni Falcone, qui était le premier sur la liste des adversaires à éliminer, a payé de sa vie son combat contre la pieuvre. Une tonne d'explosifs a été nécessaire pour abattre celui que l'on surnommait le juge blindé. Le juge, qui se savait en sursis, ses deux prédécesseurs ayant été assassinés, ne pouvait pas échapper à son destin.
France Inter, 19 juillet 1992.
Attentat à la voiture piégée tout à l'heure à Palerme, en Sicile. Richard Rezé.
L'une des cinq victimes de l'attentat est bien le juge Paolo Borsellino, l'un des magistrats du pool anti-mafia. Une fois de plus, la mafia a utilisé une voiture piégée pour éliminer un magistrat. La bombe, une forte charge de tritol, a explosé au passage de la voiture blindée. Les premières images de la télévision révèlent une scène hallucinante. Voiture éventrée, débris humains, même le sol, des incendies un peu partout. Borsellino était un intime de Giovanni Falcone, le magistrat tué il y a 2 mois, avec sa femme et 3 agents d'escorte, près de l'aéroport.
Toutes les fois qu'on disait « cours qu'il y a un meurtre, un assassinat », et je partais, et j'avais toujours envie de vomir, et le cœur battait très fort, parce que c'est horrible de rencontrer la mort, la mort violente. Quelqu'un qui est là, la première fois, je disais « c'est pas possible ». Et c'était toujours, jusqu'au moment... Et j'ai dit, quand il y avait Borsellino tué, j'ai dit non, je ne peux plus photographier. Je ne veux plus photographier la mort. Et je n'ai pas photographié Borsellino, les morceaux de corps de Borsellino et des autres, et de la d'escorte. Je n'ai plus fait.
Là, ça a été la deuxième très, très grande épreuve qu'elle a traversée. Elle était dans un état, on peut dire, vraiment au fond du trou. Parce que ça, c'était vraiment l'horreur absolue. Elle a essayé de détruire ses photographies. Elle a essayé de les noyer, de les mettre dans l'eau, en disant « Allez-vous-en, partez, partez !» Elle a essayé de lutter de toutes ses forces pour surmonter cette épreuve. Et la création en elle, ou son extrême instinct de survie, c'est peut-être la même chose d'ailleurs, lui ont fait comprendre que ce n'était pas en chassant ces images qu'elle les surpasserait, mais en les sublimant. Et donc ce qu'elle a fait, elle a mis de la beauté et de l'amour au-dessus de ces images. Donc elle a créé la série qu'elle appelle les rielaborazioni, les réélaborations. Sur des crimes, elle a mis le buste d'une femme nue avec du jasmin. Parce que pour elle, la femme nue, les fleurs, ça symbolise l'espoir, la beauté, l'innocence, la paix et l'amour. Et c'est par la beauté et par l'amour qu'elle a superposé en fait au crime. Et c'est comme ça qu'elle s'est délivrée des crimes.
Dans cette photo, on voit Rosaria Schifani, qui est en fait la veuve d'un des membres de l'escorte de Falcone. Alors ce portrait, bon évidemment, souvent le compare à un portrait de Madone, hein. En même temps, moi, ce que je vois, c'est effectivement ces deux faces qui s'opposent dans l'image. Donc, c'est un portrait avec une ligne qui coupe l'image en deux et qui traverse au niveau de l'arête du nez, hein, jusqu'en bas, où on voit d'un côté une ombre, mais une ombre avec des détails, et de l'autre côté, une lumière très forte. Pour moi, on a vraiment deux mondes qui s'opposent, hein. On a la mort et la vie, la lumière et l'ombre. Et ce qui est intéressant dans ce portrait, c'est non seulement elle a les yeux fermés, qui permet peut-être de mettre le spectateur à distance, c'est-à-dire Laetitia Battaglia, quand elle photographie Rosaria, elle la respecte. Et le fait qu'elle ferme les yeux, c'est une manière d'avoir une forme de pudeur face au spectateur. C'est la protéger par rapport au spectateur, pour lui enlever son regard de voyeur. Alors, autre chose que je trouve vraiment intéressant, c'est l'éclat de lumière qu'il y a sur sa paupière dans l'ombre, qui montre son désir de ne pas se laisser aspirer par la douleur et par la mort. Elle est digne, en fait, hein. Il y a une forme de dignité qui est très, très puissante dans cette image.
Laetitia, elle a choisi toujours les noirs et les blancs pour une question esthétique, parce qu'elle a toujours aimé les photos en noir et blanc, mais aussi parce qu'il y avait toujours beaucoup de sang dans les rues de Palerme. Et donc, une fois, elle a essayé d'imprimer une photo avec la couleur, mais il y avait les rouges partout. Donc, c'était impossible à voir, impossible à se rapprocher. Et je pense aussi que le noir et le blanc, dans la photo de Laetitia Battaglia, représentent aussi un peu la lutte quotidienne entre le bien et le mal, entre l'horreur et la beauté, qui sont des choses qui sont toujours ensemble dans l'histoire de Palerme, parce qu'il y a l'histoire de la mafia et le cadavre tué par la mafia, mais aussi dans l'histoire de Laetitia, la volonté de se battre toujours, d'essayer vraiment d'imaginer pour Palerme un destin différent, un destin de lumière.
Il y avait beaucoup de bons photographes à Palerme à cette époque, deux ou trois que j'ai beaucoup aimés, et un en particulier dont je ne me rappelle plus le nom. Et lui aussi photographiait les victimes d'assassinats, qui en cette période ne manquaient pas. Il photographiait donc ces cadavres pour le Corriere della Sera. Et le courrier lui disait, mais on ne voit pas qu'on est en Sicile. Alors que faisait-il? Comme il avait une abeille, une lapa, comme on disait à Palerme, c'est-à-dire un scooter Vespa transformé en triporteur. Il y chargeait une cagette de figues de Barbarie. Il roulait jusqu'à la campagne aux portes de Palerme, là où se trouvait le mort. Là, il posait les figues à côté, il prenait la photo, et voilà une victime de la mafia. Et cette fois, la photo était certifiée, puisqu'on voyait cette figue de Barbarie, et qu'à Milan, Il n'en poussait pas, évidemment.
C'era Pimpio Scaffidi, che era il fotografo di cronaca dell'ora, che era bravissimo e anche una persona deliziosa, fece.
Il y avait par exemple Nicolas Scaffidi, un autre reporter photo pour l'Ora, qui était très talentueux et une personne délicieuse. Quand Luchino Visconti est venu tourner Le Guépard, il a fait un reportage extraordinaire dont il a tiré ensuite un livre. Et je crois aussi une autre brochure avec l'un de mes textes et ses photos du tournage du film. Il y en avait tant, c'était toute une génération de photographes.
Letizia è una donna che ovviamente per affermarsi doveva anche essere
e puis une seule femme,
forte,
Letizia. E en tant que femme, il lui a fallu beaucoup de force pour s'affirmer dans ce milieu et ne pas se laisser écraser par tous les autres.
Con delle convinzioni morali e politiche molto solide.
Et puis, c'était une femme qui s'était forgée des convictions morales et politiques très fermes et qui ne voulait rien céder au folklore. Et elle disait des choses atroces des photographes qui l'entouraient.
À Palermo, lui riuscì à sapere.
Elle m'avait parlé d'un collègue qui venait de photographier un homme tué à Palerme. Comme il était parvenu à connaître l'adresse de la victime grâce à un policier, il fonce sur sa moto vers le village, il frappe à la porte de la maison de cet homme, sa mère ouvre la porte et le photographe lui dit « Savez-vous que votre fils vient d'être assassiné à Palerme ?» Et aussitôt, il prend en photo le visage de cette femme. Ce genre de pratique scandalisait Letizia. Et ça me semble juste, non? De ce point de vue, elle revendiquait une droiture morale.
Ma che danno facciamo se ce lascia entrare? Io mi sto bagnando tutto il cappello.
Quando mi avete svegliato il palazzo, so io che ce li metto.
Ma quando si sveglia sto palazzo? Mia figlia si è alzata alle 5. Io vengo da Viterbo, sa?
E io dipendo dagli inquilini.
E siamo in fare una svegliata, sti inquilini! Inquilini! Inquilini!
Oggi la fotografia ha meno peso, allora ha avuto un.
Aujourd'hui, la photographie a moins d'importance. Mais après la guerre, elle jouait un rôle énorme. C'était la découverte de l'Italie et peut-être aussi du monde. On était après une guerre mondiale qui avait tué 60 millions de personnes. Et le néoréalisme naît de là, de ce besoin de comprendre ce qu'était l'Italie, de raconter un pays après 20 années sous le fascisme et la censure. Il y avait le cinéma, le théâtre populaire, c'était une explosion de vitalité et la photographie y jouait un rôle privilégié parce que certains journaux et revues la protégeaient aussi, particulièrement. Il y avait par exemple Epoca, une revue qui ressemblait au magazine américain Time. Donc la photographie était très considérée, on donnait de l'espace à de nouveaux photographes italiens, plus jeunes, novateur et très doué. C'était une époque dorée dans l'histoire italienne, une période de grandes réformes sociales, la Constitution, la République, le vote des femmes.
Di cose straordinarie che sono finite ancora dopo il 68.
Au bout du compte, c'est toute une série de choses inédites qui ont continué même après 1968, avec la lutte pour le droit au divorce et à l'avortement.
In questa filiera. La grande storia d'Italia è quella, né prima né dopo.
C'était celle-là, la grande histoire de l'Italie. Pas avant ni après. Et Letizia était au cœur de cette histoire. Pas seulement elle, il y avait Pasolini, Morante, Carlo Levi, Danilo Montaldi, tant de gens du sud et du nord. C'était aussi la naissance d'une nouvelle sociologie et de tant d'autres choses. Mais dans cette époque dorée de lutte, Letizia était un peu comme un étendard, un signe de ralliement.
Fred Ricin qualifie Letizia Battaglia photographe documentaire lyrique. Et il a été frappé pour la violence qu'elle avait documentée avec les photos de mafia. C'était ça qui lui a vraiment frappé, le néoréalisme. On peut dire comme ça, de la photographie de Letizia Battaglia. En fait, elle-même, elle aimait définir avec le mot néoréalisme sa photographie plutôt en regardant au cinéma italien, par exemple le cinéma de Rossellini, Donc les drames qui arrivent dans la vie quotidienne, les drames qui se passent dans les rues. Et donc, je pense que c'est ça la raison pour laquelle il a décidé de lui donner le prix.
Le prix Eugène Smith, ben oui, c'est un prix très très important. Eugène Smith, c'est un photographe qui toute sa vie aussi s'est engagé à montrer, notamment là avec Minamata, les horreurs des entreprises qui polluent. Donc, il a photographié les mineurs, les conditions de vie en fait en règle générale. Assez désastreuse, des invisibles entre guillemets, quoique j'aime pas tellement ce terme-là, mais que le monde de l'argent, le monde capitaliste a laissé de côté en fait. Hein. Donc toute sa vie il s'est engagé, donc c'est pas qu'un prix de la photo, mais c'est aussi un prix de l'engagement. C'est hyper important parce que ça reconnaît l'engagement dans un projet qui peut être long cours, mais pas que, mais aussi dans une carrière. C'est la deuxième fois que ce prix de photojournaliste qui était essentiellement remis aux hommes sont remis à des femmes. La première, c'était en 1980 avec Jane Evelyn Atwood. Et cette année-là, c'est carrément un duo de femmes, Laetitia Battaglia et Donna Ferrato, qui a photographié les violences conjugales, qui ont eu le prix. Donc c'était une année féministe, on peut dire, en 86.
Laetitia Battaglia, pour beaucoup des années, a été presque ignorée en Italie. Et après le prix, Eugène Smith, elle était contente dans un côté parce qu'elle avait beaucoup travaillé. L'engagement, c'était presque total pour elle jusqu'à la fin de sa vie. L'engagement avec la photographie, comme militante politique, écologiste. Donc, elle était contente de ça parce qu'elle disait, quand on fait quelque chose, c'est bien que quelqu'un va reconnaître les valeurs de la chose qu'on a essayé de faire. Après, dans le même temps, elle ne pensait pas d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Elle disait, c'est mon devoir de prendre les photos, de m'engager pour la ville. Donc, il y avait ces deux côtés, je pense. Il sentait la responsabilité parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui la cherchaient, qui la prenaient comme un symbole, comme un modèle.
Vers la fin de sa vie, quand ses photographies ont été exposées dans une grande galerie milanaise, elle a le souvenir d'un vernissage avec des collectionneurs, des collectionneuses, des gens en manteau de fourrure qui buvaient du champagne devant ses photographies. Elle a dit, mais moi je n'ai pas fait pour ça mes photos. Mes photos, c'était pour dénoncer, pour faire arrêter les crimes de la mafia. Elle a dit, moi je ne suis pas une artiste engagée. Mais chez elle, elle est, si on peut dire, tellement artiste. C'est un état chez elle. C'est plus qu'une profession. Donc c'est étroitement mêlé. Pour elle, l'art, c'était un engagement total, en fait, de tout son être.
Archives France Culture, Carnet Nomade, 15 mai 2000. Laetitia Battaglia.
J'ai choisi de lutter, pas de perdre ma liberté. Je pouvais perdre ma vie, ma paix, mais c'était une grande liberté que je pouvais lutter. Je suis prisonnier pour amour, pas parce que quelqu'un m'oblige à faire des choses. Je l'ai choisi, j'ai la possibilité de choisir de partir ou de rester.
C'est une photo dans l'asile psychiatrique dans lequel Laetitia Battaglia a travaillé bénévolement pendant 2 ans avec Franco Zecchin. C'est une photo en fait de 3 hommes qui sont déguisés. À gauche, au premier plan, il y en a un qui nous regarde avec ce regard. Il est maquillé, il a un chapeau avec des étoiles sur la tête et un voile qui tombe. Les 2 autres aussi derrière ont des chapeaux, mais c'est surtout lui qui nous interpelle. On dirait qu'il nous parle en fait, qu'il nous parle, mais sans nous parler. Je ne sais pas comment elle est arrivée à exprimer ça. Ça c'est tout son regard sur la folie, cette impossibilité de communiquer. Et elle raconte que la première fois qu'elle est allée dans cet hôpital, elle s'est mise à jouer au ballon avec eux, et en fait ils partaient dans le sens opposé. Donc elle s'est dit qu'ils ont vraiment un problème de communication. Moi j'aime beaucoup cette série sur les fous, je trouve qu'on n'en voit pas souvent dans les livres. Cette photo est magnifique, hein, vraiment.
Dans la photographie, c'est au moment où on prend une photo, on saisit une partie d'une réalité avec laquelle on est confronté, on exclut le reste pour cadrer sur ce qu'on considère plus essentiel. Donc c'est un travail de soustraction qu'on fait. On soustrait d'une réalité complexe à 360 degrés une image fixe qui témoigne d'un certain moment, d'un certain instant où on s'est posé un rapport à cette réalité avec un choix de temporel, de lumière, de distance, de cadrage. Et tout ça est évident que dans l'image qui en résulte, il y a une partie de soi-même. C'est-à-dire, dans cette instantanéité de la photographie, il y a tout soi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas l'extraire. Surtout quand la photographie est le résultat de quelque chose de qualité. Donc, si on veut parler qu'est-ce que c'est la qualité photographique, c'est un peu un discours complexe, mais une photo a de la qualité quand on peut la regarder longtemps, et chaque fois qu'on la regarde à distance du temps, elle a toujours du contenu, elle communique toujours quelque chose. Donc, là vient aussi le discours sur l'engagement social, politique, c'est-à-dire nous on cherchait la qualité parce que on voulait contribuer à construire une mémoire. Donc plus les photos ont qualité, plus ces photos peuvent s'enraciner dans la mémoire visuelle.
Les photos des fous qu'elle a faites sont parmi ses plus belles photos de toute son œuvre. Il y en a très peu. Elle a dit que c'était très difficile de les photographier. Pour elle, c'était très important d'y consacrer 2 heures par jour, pendant l'heure des repas, bénévolement. Et c'est un épanouissement. Et là encore, elle dénonce. Il y avait des gens qui étaient enfermés là, mais qui n'étaient pas fous. Il y avait une femme qui a passé toute sa vie là, juste parce qu'elle avait été violée par un prêtre et qu'elle avait été enceinte. Elle documente aussi sur les conditions de vie. À ce moment-là, ils n'avaient même pas de papier toilette, par exemple. C'est quelque chose de monstrueux. Et elle était là, elle jouait avec les gens, et elle a su capter à quel point la non-communication avec les autres était source de souffrance. Elle a vu que c'était des gens qui n'arrivaient pas à communiquer, en fait. Et Laetitia Patel, c'est très important pour elle. Et elle a su capter dans leur regard leur besoin éperdu de communication. Elle a su les photographier parce que, comme tous ses sujets, elle les photographiait, comme elle disait, « con respeto », avec respect. Et même un mort, qui est mafieux, qui a commis des crimes horribles, on est devant la mort, on respecte. Ça, c'est un mot très important pour elle. Elle avait ce respect de considérer toujours les gens comme des êtres humains à part entière, même ceux qui paraissent complètement out, en fait.
J'aime beaucoup programmer les futurs.
Archives France Inter, Regardez voir, 4 décembre 2016.
Je suis un enthousiaste de la vie et des choses à faire. Puis j'ai parlé de mon futur. Alors, il y a 4 ans que je suis partie voir mon maire qui s'appelle Leoluc Orlando. C'est un grand maire. Il fait tout ce qui est possible contre la mafia. Ok. Et je lui dis, je vais organiser à Palermo un centre international de la photographie. Est-ce que tu peux me donner le pavillon qui est là dans ce... Il m'a dit oui. Et alors, est commencé il y a 4 ans, où je ferai des expositions, des débats, l'école de photographie. Il y aura des photographes internationaux que j'inviterai. Et je suis folle d'enthousiasme. Palermo, c'est comme la nettoyer de la poubelle, organiser la culture. Et alors, ça, c'est mon futur. C'est avec la photo des autres.
Moi, quand je suis allée à Palerme...
Nina Antico, illustratrice de bande dessinée.
J'avais pas prévu de la rencontrer. Elle était... Parce qu'en fait, le livre que j'ai lu qui m'a fait découvrir pour la première fois Laetitia Battaglia, c'est « Minuit en Sicile » de Peter Hobb. Il y a tout un chapitre qui lui est dédié. Et voilà, de fil en aiguille, ensuite, en allant à l'Institut français, on m'a dit, mais oui, Laetitia Battaglia, elle a ce centre, etc. Donc, ça semblait, du livre que j'avais lu dans l'avion, pouf, je me retrouvais dans son centre de photographie, elle face à moi, hop, je me retrouvais chez elle. C'était assez dingue. Et je lui ai fait un portrait sur un carnet Moleskine. Donc, je l'ai dessiné face à moi, avec la peinture de Rita Atria, en hommage à Rita Atria, juste derrière elle. Et je l'ai découpé et je lui ai donné. Et ensuite, j'ai fait une photo d'elle tenant son dessin, donc comme une mise en abîme. Et je lui ai laissé. J'ai comme trace la photo de ce dessin. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec le fanzine, enfin, le noir et blanc. Et c'est vrai que pour moi, il y a une force, de par les contrastes ou les nuances, il y a quelque chose qui se suffit dans le noir et blanc, qui souvent se dilue dans la couleur, ou alors se maniérise trop. La couleur ne peut pas égaler dans la force le noir et blanc. Et j'aime bien cette frontalité et juste ce jeu des contrastes, en fait. J'ai appris à dessiner en recopiant des photos. Et du coup, c'est plus facile aussi de redessiner une photo noir et blanc qu'une photo couleur, à cause des contrastes qui sont plus évidents à marquer. Donc j'ai beaucoup regardé des photos et redessiné des photos. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le portrait aussi, et je suis venue au dessin, et je pense que c'est ce que j'aime le plus faire, et c'est ce que je fais dans mes BD, c'est des portraits. Mais j'aime vraiment en plus ce que ça crée de l'instant de regarder quelqu'un dans les yeux, ce qui est très inhabituel pour les gens en fait, et qui les met dans une position particulière. Et c'est comme un moment de silence qu'a à avoir avec la photo, sauf que ça dure plus longtemps, quoi, comme temps de pause. Donc on a eu aussi ce silence, cet échange, elle a regardé, elle avait vraiment les yeux qui pétillaient, qui étaient malicieux, quoi. Enfin, c'était clairement une femme forte et ça se voyait dans son regard.
Et là, ce sont des détenus de la prison à Palerme. Et là, c'est un gros plan, en fait, sur une fenêtre, toute grillagée, avec des têtes qui dépassent et des gens qui font le signe de la victoire, ce qui est un peu étonnant. Enfin, ce sont des détenus qui rient, voilà. Et ça, c'est tout Laetitia Battaglia qui photographie toujours avec respect tous ces sujets, en fait, quel qu'il soit. Donc, elle rejoint toujours l'humanité profonde qui est en chacun. Et c'est toujours ce même regard et une prise de vue vraiment étonnante avec cette fenêtre qui est toute petite, c'est presque une lucarne, un peu de travers, et vraiment très, très grillagée. Et la pierre qui est autour, ça donne vraiment une impression d'enfermement avec tout le soleil autour qui irradie, et eux, ils sont vraiment dans l'ombre. On sent vraiment la prison, quoi.
Il y a un projet artistique de Laetitia Battaglia qui s'appelle Invincibili, Invincible, qu'elle a développé entre 2013 et 2014 et qui est dédié à toutes les personnes qui ont été pour elle une source d'inspiration humaine et intellectuelle. Et donc, ils sont notamment les poètes Pier Paolo Pasolini et les juges Paolo Borsellino et Giovanni Falcone, et bien sûr, tout d'abord, les poètes Ezra Pound, mais aussi l'écrivaine Marguerite Yourcenar. Et donc, dans ces projets-là, elle a retravaillé les portraits de ces personnages en noir et blanc à travers la réitération de l'image, et c'était une manière de leur rendre hommage. Et pour ce qui concerne la photographie, elle a aimé surtout les femmes photographes américaines, parce qu'elle disait il y a de l'authenticité, de la générosité avec lesquelles elle raconte le monde. Par exemple, Marie-Hélène Marc, Diane Arbus et Francesca Woodman. Mais il faut dire qu'elle a considéré pendant toute sa vie son maître absolu des photographies et de vie, Joseph Kudelka. Elle me disait toujours, il est le plus grand photographe du monde. Elle a beaucoup aimé surtout les projets sur les Gitans de Kudelka, mais aussi l'invasion, bien sûr, des troupes du pacte de Varsovie, qui mit brutalement fin à l'espérance du printemps de Prague en août 68. Donc, elle a gardé pour toute sa vie et ces personnes comme des repères pour elle. Les choses qu'ils ont fait, les choses qu'ils ont écrites, ils restent. Ils dépassent la mort. Donc, c'est ça qu'elle voulait dire, invincible. Et Laetitia Bataille, elle aussi, maintenant, elle est invincible pour les choses qu'elle nous a laissées. Pas seulement les photographies, mais sa pensée, le courage. Et aussi, toujours l'invitation à se battre, à s'apprendre la responsabilité des de choses qui se passent.
Ce que Laetitia Battaglia nous laisse, c'est l'engagement. Je trouve que c'est très important que quand on utilise les écrits, l'appareil photo, la peinture, le dessin ou même le cinéma, toute forme d'art, il faut dire quelque chose pour parler du monde. Et c'est ce qu'elle nous laisse, Laetitia Battaglia. Elle raconte le monde grâce à ses images. Au-delà d'un fond photographique historique qui est important pour raconter l'histoire de l'Italie, ce qu'elle nous laisse, c'est montrer que ce qui est important, c'est de ne jamais se laisser faire et de lutter et de garder sa liberté.
J'ai l'impression qu'elle était vraiment très très libre dans son parcours de vie, autant personnel que... et jusqu'au bout, quoi, vraiment une... effrontée et insolente, et que voilà, cette insolence-là, elle permet forcément de, d'avoir envie de ne pas se laisser enfermer. Voilà, que c'est important de ne pas fermer les yeux, quoi.
Sur la page Facebook, après sa mort, j'ai vu un post fait par ses petits-enfants qui disent, près de son lit, il y a tous ses post-it avec tous les projets qu'elle doit faire. Alors qu'elle savait qu'elle était mourante, moi elle me l'a dit au téléphone, je l'ai eu peu avant. Ce fait de se projeter comme ça toujours dans l'avenir, en fait je pense que c'est parce qu'elle avait tellement le souci des autres que même sa mort n'était pas un arrêt. La vie continuait parce que les autres allaient continuer à vivre. Et elle ne ressassait pas le passé, même si dans ses interviews, ses conférences, elle parlait de son traumatisme quand elle avait été enfant. Mais c'était toujours pour montrer l'exemple en fait, pour dire comment elle avait surpassé, comment elle avait vécu, et pour que les autres en fassent leur miel et qu'ils continuent et qu'ils construisent. Parce que la vie, c'est construire en fait, sinon ce n'est rien. Nous devons créer, créer sans cesse. Et elle, elle a eu le courage de pouvoir l'envisager jusqu'à son dernier souffle. Et c'est vraiment en cela qu'elle est aussi admirable.
Laetitia, ça veut dire la joie en latin, et Battaglia en italien, ça veut dire la bataille.
C'était Laetitia Battaglia, 1935-2022. Une photographe hors les murs. Merci à Sabrina Pisu, Frederica Abate, Franco Zecchin, Nina Antico, Laetitia Guillemin et Goffredo Fofi. Prise de son, Grégory Vallon. Mixage, Guillaume Ledoux. Documentation INA, Hervé Evanon. Traduction, Xavier Martinet. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Noémie Salogna, réalisé par Agnès Catou.